et j'ai l'honneur d'accueillir un invité qu'on retrouve assez régulièrement d'ailleurs dans cette émission. Et c'est un homme d'écriture aussi, de théâtre, la poésie, peut-être la chanson aussi. On va en parler avec Thierry Moral. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Et très bonne année.
Oui, belle année.
Donc voilà, on a évoqué un petit peu la mémoire de cette comédienne. Peut-être tu en as quelques souvenirs ?
Oui, j'ai eu l'occasion de la croiser, Arlette, de la voir sur scène dans de très très beaux spectacles. En effet, des mises en scène de Dominique, mais également un spectacle qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelait Des songes et des vivants, mis en scène par Jean-Claude Giraudon, la compagnie de commerce et d'industrie, compagnie théâtrale, qui était un répertoire de 3 pièces de théâtre classique non japonais, dans lequel Arlette avait une très belle présence.
Très bien. Voilà, donc on a évoqué donc son nom, son histoire, puis le théâtre dans cette région. Hein, et cette région qui est toujours riche en théâtre, d'ailleurs.
Tout à fait.
Tu peux en témoigner ?
Ah bah oui, un petit peu. Bon, même si moi, je n'ai pas la même expérience. Enfin, bon, ça fait quand même maintenant un peu plus de 20 ans que je suis intermittent du spectacle. Mmh. Donc moi, je viens sur le poste décentralisation et puis sur un choix artistique qui est le mien, qui est de s'intéresser à la culture de proximité davantage que les institutions. Voilà, donc je joue à peu près partout, sauf dans les théâtres, mais essentiellement dans les centres sociaux, dans les écoles, les collèges, les lycées, en prison, à l'hôpital, partout où la parole peut être donnée.
Donc ce qui t'intéresse, ce qui te motive, ce qui te passionne, c'est l'humain.
Concrètement, exclusivement, le rapport au public avec cette volonté de créer des rencontres sincères, authentiques, sans filtre. Bon, j'aime beaucoup jouer sur les grands théâtres quand j'en ai l'occasion, quand j'en suis invité, j'ai un grand, grand plaisir à cela. Mais le rapport au public direct, très inconfortable quand on n'est pas dans des conditions, permet une autre forme de rapport aux gens et je pense de transmettre d'autres choses, en tout cas différemment. Mmh.
Donc une écriture qui est diverse, hein, avec une partie aussi sociale, où on retrouve des problématiques actuelles, parfois dures.
Oui, je travaille de manière très éclectique. Souvent, quand les gens essaient de me mettre dans des cases, ils ont un petit peu du mal.
J'essaye pas. Hein.
Ah bah oui, pas du tout. Et donc, en effet, il m'arrive assez régulièrement, en tout cas en tant qu'auteur, on me met plutôt dans la case du roman social. Et donc, pour moi, l'écriture est un engagement. Je prends le sens du mot politique au sens grec du terme, prendre la parole devant les gens. Et donc, je n'ai pas d'autres propos politiques que ceux qui sont à l'intérieur de mes textes. Et la question de l'humain au cœur de cette société qui prend un tournant très étrange depuis un grand temps. Et on l'a senti venir, quoi qu'en disent certains.
Bien sûr, on ne peut pas dire qu'on n'alerte pas depuis quelques années.
Oui, on le fait. Et des personnes comme toi, comme Arlette, voilà, l'ont fait bien avant nous. Et on a eu la chance d'avoir cet héritage-là. Mais donc oui, bon, mon écriture peut servir, entre autres aussi, à questionner des faits sociaux.
Voilà, donc ton écriture, c'est aussi de la poésie. Et par exemple, avec un thème là qu'on peut peut-être présenter sur le voyage.
Oui, dans le recueil Sans objectif fixe qui vient de paraître chez Nombre 7 Éditions, une maison d'édition qui est de Nîmes, j'ai écrit différents. En fait, j'ai réuni différents textes que je disais partout ou ailleurs, essentiellement en détention, mais aussi en milieu hospitalier, en atelier slam ou autre. Et voilà, il est vraiment sans objectif fixe. Il est très très éclectique à mon image. Et la question du voyage est très importante parce que mon travail principal est celui de conteur, de raconter des histoires et raconter fait voyager.
Bien sûr. Alors c'est vrai que samedi, je vous ferai voyager, chers auditeurs, en Chine comme tous les premiers samedis du mois entre midi et 13h. En l'occurrence, là, ce sera pour présenter un petit peu ce qui va nous arriver avec le nouvel an chinois. Hein. Mmh. Et effectivement, le voyage, alors je ne sais pas si ça forme la jeunesse, mais ça forge l'adulte.
Oui, Oui, je le pense aussi, même si je n'ai pas fait tant de voyages que cela, mais des voyages marquants dans mon parcours au Togo en 2003, puis au Nicaragua en 2009, où j'ai fait du collectage de contes traditionnels, et je suis revenu avec rien, parce que tout avait été écrasé par la Révolution. Donc voilà, d'apprendre beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup.
Est-ce que tu peux nous présenter le premier passage à la radio là d'une pièce écrite, donc raconter ses voyages.
Ouais, avec plaisir.
On va l'écouter.
Ouais.
Et on en parle après.
Ça marche. Raconter ses voyages entre les lignes serrées. Sur le fil des monts, du flot et de l'eau. Dévaler les collines d'images, se perdre dans les mirages, découvrir l'inattendu de l'émotion suspendue. Voyager, c'est raconter son périple au pas de côté, peu importe la distance, le chemin fait sens. Parole d'ici ou d'ailleurs, parabole à l'honneur. Quel que soit le message, la légende elle aussi la rage. Palabrer pour s'envoler vers des terres insoupçonnées, aux réalités improbables poussées par des vents favorables. S'enfoncer au cœur des cultures, explorer chaque ramure au plus près des habitants se conjuguant à tous les temps. S'envoler pour palabrer avec qui veut partager, ouvrir les consciences au-delà de la science. Fouler les contrées imaginaires et les songes éphémères pour mieux revenir chez soi, affranchi du pouvoir des rois.
Voilà Thierry Morel, raconter ses voyages. Donc, on peut parler de toute une série qu'on retrouve aussi sur YouTube notamment.
Oui, le médium de la vidéo s'est imposé à moi pour des questions de communication, puis j'ai pu développer l'outil, en tout cas l'acquérir, l'apprendre, l'expérimenter davantage durant les périodes de confinement, et la parole, que ce soit du conte ou du slam ou de la poésie sonore, se prête bien à l'outil vidéo, même si en fin de compte, comme là dans ce travail-là, c'est essentiellement du son.
Bien sûr, oui. Peut-être quelques mots sur Fugue en mi burlesque.
Alors oui, c'est mon dernier roman, le 9e, publié chez Spinel Éditions. C'est une randonnée, vraiment une randonnée au sens conte, une histoire cumulative où des personnages vont se rencontrer. Donc un bobo quarantenaire qui habite Seclin et puis qui fait sa crise et qui décide de montrer son refus du système en partant en plein été dans la forêt de Falampin en croque. Mmh. Sauf qu'il est suivi par Alix, une punk à chien qui, elle, a des kilomètres sous ses grôles, elle vient de Pau, et qui se dit « Tiens, il a l'air marrant, lui, je vais le suivre avec son chien Django. » Sauf qu'elle est suivie par Moussa, un migrant, qui ne sait plus où aller, qui se dit que la forêt, c'est bien. Et les trois se suivent sans le savoir et vont se faire découvrir par Maryse, une vieille hippie qui promène son labrador et qui se dit « Franchement, vous êtes au courant, vous suivez les uns les autres, là, faudrait vous parler peut-être. »
Donc ce qu'on peut peut-être écouter, c'est un extrait du chapitre 1 de Fugue en mi-burlesque, sachant qu'il y a d'autres extraits de ces chapitres donc sur... ton site YouTube Thierry Morel, Thierry Morel, M-O-R-A-L, c'est très simple. Donc on écoute ce premier extrait, si tu le veux bien, Thierry.
La clé du bonheur peut se prendre comme n'importe quelle clé accrochée au trousseau du quotidien. Une fois égaré, le quidam se retrouve à la porte de l'existence, rejoignant la condition de sans bonheur fixe. Le bonheur lui échappe, lui glisse entre les doigts par maladresse. Il n'a plus la clé pour entrer dans ce monde qui n'est plus le sien.
Il ne lui reste donc plus qu'à attendre, au seuil de la demeure, qu'il a jadis comblé de bonheur, que la porte s'ouvre toute seule à la bonne heure. À moins qu'il décide d'errer de porte en porte, espérant que quelqu'un daigne le faire entrer dans sa propre félicité. Il est possible que ce dernier tombe au hasard de ses pérégrinations sur une clé égarée. Si par chance il retrouve la porte qui correspond, il peut y entrer, comme un étranger, un voleur, un réfugié, ou juste un invité. Aligner les pas, laisser derrière lui la maison du bonheur évanoui, lui arrache un semblant de sourire. Le type de sourire enfantin qu'un môme de 3 ans peut lâcher lorsqu'il réussit à atteindre un endroit en hauteur, proscrit par l'autorité parentale, qui lui offre pourtant un nouvel horizon, la table des grands. Les grands hommes, les grandes femmes, ceux qui ont fait quelque chose de grand dans leur vie. Ces gens-là sont rarement restés sur place, à la simple table des gens ordinaires. Ces grands hommes et ces grandes femmes ont mis la route sous leurs pieds pour entreprendre le grand voyage de la vie. Eric n'aspire en réalité à aucune grandeur, juste à un peu de bonheur. Le voilà enfin arrivé. Côté droit ou gauche. Il ne s'encombre pas avec le choix de la direction. Il reste à droite, traverse le pont qui enjambe l'autoroute A1, déjà bien fréquentée à cette heure matinale, puis s'enfonce dans le bois, à la manière d'un éléphant en quête d'eau. La soif de vivre. L'ironie de la formule le fait vaguement sourire parce qu'il n'a pas pris de bouteille d'eau. Alors, il se contente en guise d'introduction à son périple forestier de pisser contre un arbre dont il ignore l'essence en se disant qu'après tout, il faudra désormais s'y résoudre. Sus aux mondanités prenant le retour à la vraie nature tout en restant bien propre. Son propre retour aux sources commence donc par un jet d'urine. Ainsi soit-il, les jambes écartées de préférence. Le reste n'est que discours et il en a assez tenu. Le moment est venu de se taire. Les pieds ancrés sur terre.
Voilà, nous avons feuilleté quelques pages sonores donc de ce Fugue en mi burlesque avec ce premier chapitre, mais il y en a d'autres que tu as présenté, Thierry Morel.
Oui, tout à fait. Je me suis amusé à faire une série de vidéos présentant des extraits des chapitres. C'est un roman choral, donc chaque chapitre est dédié à un personnage et on suit l'aventure chorale à travers les différents points de vue. Et donc je me suis amusé à faire 4 extraits vidéo pour permettre aux auditeurs, aux lecteurs potentiels de découvrir, de se faire une idée de l'univers.
Voilà, donc nous sommes aujourd'hui début d'année 2023 et tu as de l'actualité dont tu vas nous parler.
Oui, tout à fait. Alors, en effet, là, je fais la promotion, la diffusion, on va essayer de faire connaître ce livre sans objectif fixe, donc publié chez Nombre 7 Éditions. Donc ça, c'est vraiment un élément qui m'est cher, qui m'est fort, parce que la poésie, c'est souvent la porte d'entrée sur mon travail d'auteur, parce que quand j'interviens sur un atelier, etc., je n'ai pas nécessairement la possibilité, dans le cas d'un projet, de réaliser un spectacle en entier. Et un court texte permet de faire une rencontre instantanée avec les publics, quel que soit leur statut. Et donc je dis beaucoup de textes à plein d'endroits, en détention essentiellement, et puis souvent on me disait c'est dommage parce que ces textes on les trouve nulle part du coup. Et donc je me suis dit qu'il était temps de les réunir dans un recueil. Alors la poésie, c'est pas mon centre d'écriture, c'est plutôt le roman social, même si la poésie est toujours présente. toujours, il y a toujours des passages poétiques dans mes romans. Je ne peux pas m'en empêcher. Donc, je rêverais de faire quelque chose vraiment thématisé, construit, comme le font les poètes que j'apprécie beaucoup, du coin ou d'ailleurs. Mais là, dans un premier temps, je me suis dit quel texte j'ai envie de défendre, voir, vu, et puis qu'est-ce que j'étais en train d'écrire en ce moment. Donc, d'où ce melting pot, cette compile de textes très variés qui vont du slam à la poésie, à la chanson pas chantée, parce que j'ai écrit des textes de chansons pour des gens qui m'avaient demandé, et puis au final, ils les ont pas chantés. Ils ont écrit les leurs, et puis j'en suis ravi. Des aphorismes, de la prose, et c'est à travers ces différentes formes, ce qui m'intéresse, c'est soit questionner des faits de société, ou soit vraiment revenir à une forme de sérénité, de contemplation naturelle, simple, des faits humains.
Voilà, donc
sans objectif fixe.
Sans objectif fixe, donc, de Thierry Moral, donc aux éditions
Nombre 7.
Voilà, donc c'est disponible dès maintenant.
Oui, il est sorti en septembre. Il est sorti en septembre, donc il se trouve assez facilement sur toutes les plateformes de vente, tous les sites, sur commande dans les librairies, et puis quand je me déplace sur des salons ou quand je suis en dédicace, comme je le serai donc samedi après-midi à la librairie de Dunkerque.
Dunkerque, ça s'appelle comment là ?
Elle s'appelle La Librairie.
Ah, La Librairie, il n'y en a qu'une, alors, tranquille. Donc on va continuer Thierry Moral avec aussi quelque chose de, on va dire, d'original et d'intéressant, bien sûr, sinon je n'en parlerai pas. C'est une collaboration franco-roumaine.
Oui, j'ai eu le plaisir, maintenant il y a 2 ans, d'être invité dans un manifeste anarcho-artistique par Daniel Marcou et Maria Popart, a participé au Manifarte, une revue qu'ils intitulent comme Manifestos Pop Art Erotica. Je parle très mal le roumain, je ne le parle pas du tout. Et donc, par l'intermédiaire de Gabrielle Danou, qui est traductrice, et grâce à qui j'ai pu rencontrer toutes ces personnes vraiment incroyables, eh bien, je participe pour la 2e édition à cette revue qui est détonnante, qui est surprenante, tant d'un point de vue visuel que d'un point de vue textuel. Donc, je ne suis pas le seul Français à écrire en français dans cette revue. Il y a d'autres autrices, essentiellement. Et ensuite, des textes roumains et des œuvres d'art roumains. C'est prenant, c'est surprenant, c'est captivant. Cette première aventure m'avait vraiment beaucoup plu. En plus, on était en plein confinement. Donc, j'avais réalisé une série de vidéos à ce sujet. Et donc là, je suis en cours de commencer à retravailler 2 nouvelles vidéos pour faire entendre ces textes. Et c'est un projet dont je suis particulièrement fier, hein, parce que le parcours de Daniel Marcou et de Maria Popart, que je connais par la petite lorgnette de français qui va sur Internet. En tout cas, c'est un honneur de les croiser à chaque fois que je lis des mails d'eux. J'en apprends beaucoup. Ils ont une sagesse, une sérénité et à la fois un engagement sans concession et sans faille qui dit des choses absolument nécessaires et qui sont passées par des combats autrement plus éloquents que les nôtres, en tout cas du mien.
Alors, en feuilletant cet ouvrage, donc il y a à peu près 24 pages, pour être clair, on sent une vraie diversité autour d'un thème. Alors c'est assez, on va dire, érotique d'une manière générale.
Oui, tout à fait. Il y a un rapport au corps. Alors au début, moi qui ne suis pas sur ce type de thématique, je me dis, pourquoi ? Bon, why not ? Mais il n'y a pas d'injonction à parler d'érotisme. Mais c'est là où j'ai compris qu'à certains endroits, reparler de son propre rapport au corps, c'est une nécessité fondamentalement politique essentielle. Donc il y a cette opportunité là, et d'ailleurs dans nos rencontres c'était vraiment intéressant. Alors, quand j'ai fait tout ce travail de vidéo sur le Manif Arte 1, c'était vraiment intéressant la collaboration, les retours avec Maria et avec Daniel, et au bout d'un moment je ne sais plus comment c'était venu, voilà, on était venu sur le terme punk. Alors c'était peut-être une histoire de traduction, je ne sais pas. Et d'un seul coup, Daniel se met à parler en disant « Mais vous avez une punk en France, c'est Corinne Maziero. »
Oui.
Et il m'a fait tout un éloge là-dessus. Mm-hmm. Puis je dis « Bah moi je la connais, enfin très peu, hein, très peu, mais voilà, on s'est déjà côtoyés, voilà. Je connais surtout Nicolas Grard. » Et donc du coup j'étais vraiment content, voilà, d'avoir cette proximité. Il avait écrit un texte, le punk tenon, et donc j'avais terminé tous les textes, et donc du coup j'avais refait une vidéo pour mettre à l'honneur l'acte que Corinne avait posé lors de cette fameuse cérémonie. Et donc dans le Manif Arte 2, comme on peut le voir, il y a les photos de Corinne et le texte original qu'il avait écrit, que j'avais dit en vidéo à l'époque. Okay. Et donc c'est un acte fort, essentiel, utile.
Voilà, donc un ouvrage qui rassemble donc de nombreux textes en français et en roumain. Alors nous, ça nous semble un peu étrange, mais du côté de la Roumanie, il y a quand même pas mal de Roumains qui connaissent assez bien la langue française.
Bah oui, j'ai pu le découvrir à travers notamment ma rencontre, ma relation numérique avec Gabrielle Danou, qui est traductrice d'ailleurs, qui écrit un très beau texte sur qu'est-ce que c'est que traduire dans le Manif Arte 2. Et donc c'est là où j'ai découvert qu'il y a un rapport entre Roumanie, France au niveau de la langue qui est vraiment très étroit. Et d'ailleurs, elle fait un travail que je tiens à souligner et à vraiment gratifier, qui est vraiment essentiel et très important, c'est qu'elle traduit des œuvres classiques de littérature roumaine en français, et elle les met à disposition du public. Et là, j'ai découvert par exemple des œuvres fondamentales, comme une œuvre classique qui est quasiment balzacienne et qui se situe à l'hôpital de Berck.
Mais pourquoi pas, hein, bien sûr. Voilà, donc les sujets d'inspiration ne manquent pas pour le poète.
Ah bah non, ça nous remet à chaque fois, non pas sur la page blanche, mais on a l'impression de jamais l'avoir terminé. D'ailleurs, les carnets sur lesquels j'écris sont très petits. Donc j'en tourne les pages et c'est un puits sans fond, la poésie. Alors moi, je ne suis pas un poète de la forme, de l'ultra-classicisme. Les formes viennent en fonction de l'instinct, de l'instant. Et puis après, ça fait mouche ou pas.
Donc on est parfois en décalage quand on est poète, quoique, hein, avec une réalité à laquelle on se confronte et qui est parfois difficile, violente. Et toi, tu témoignes un peu des deux, de la beauté du monde, mais en même temps de cette violence.
Mais oui, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si on n'avait pas des murs face à nous, on ne regarderait pas autour. On continuerait de chercher ce Graal consumériste en disant « Il est là, il est là, on va l'avoir. »
Alors, on nous l'avait quand même bien vendu.
On nous l'avait bien vendu.
Bon, après, le soufflet retombe à un moment donné.
Ben oui, oui, oui. Et on s'est fait illusionner par cette chose-là. Et donc, la question, en tout cas dans le Manif Arte 2, la question politique, mais aussi dans son objectif fixe, où il y a vraiment des textes vraiment qui questionnent cette notion de système, jusqu'où il nous emmène, au plus proche du mur, qui se rapproche de manière très inquiétante et qui nous donne aussi l'opportunité de regarder autour de nous.
Donc voilà, il y a des poésies, parfois des contes transformés. Je vois ce livre audio, Biche de Noël. Alors on a passé un peu la période, mais on est encore un peu dedans quand même. Comment tu as abordé Biche de Noël ?
Alors là, c'était une très belle rencontre avec un auteur et éditeur belge, voilà, avec qui j'avais édité mon quatrième roman, Sans attache, donc Atine Nenot, Éric Descamps. On s'était rencontrés en faisant une intervention en détention ensemble, puis on avait vraiment sympathisé. Donc voilà, de fil en aiguille, j'avais proposé un manuscrit, il avait édité, puis après il a lancé un recueil, Celle d'un soir, un recueil de nouvelles. Et il a réuni un certain nombre d'auteurs, et puis il m'a invité à y participer. Et j'avais écrit donc cette comédie en trois actes, qui s'appelle Biche de Noël, donc aussi en mode choral, où à chaque fois c'est un personnage différent qui va raconter la même histoire de son point de vue. Donc le premier point de vue, c'est celui de lui qui, en allant au repas de Noël chez sa belle famille avec sa fille dans la bagnole, il renverse une biche. Deuxième point de vue, sa femme, qui voyant qu'il arrive en retard, qui raconte n'importe quoi, qui est sale, qui fait mentir à sa fille, se dit « qu'est-ce qu'il y a là-dessous ?» Et en trois, la biche.
Bon, on va découvrir un tout petit extrait de ce livre audio, « Biche de Noël » par Thierry Moral.
Un. Vous êtes un homme comme tous les hommes, pour tout dire un homme normal. Vous vous rendez en pleine campagne dans la maison de vos beaux-parents pour fêter Noël. Votre chérie, que vous appelez aussi ma compagne, voire elle, suivant les circonstances relationnelles, s'y rendra directement en sortant du boulot, parce que c'est plus pratique. Plus pratique pour elle. Vous avez donc la joie de faire le trajet avec votre fille qui, comme à son habitude, est assise sur la banquette arrière, entre les deux sièges de devant, alors qu'elle devrait être sur son siège rehausseur. Il fait froid, il fait nuit, la chaussée n'est absolument pas déneigée dans cette cambrousse paumée, vous en avez déjà assez de cette soirée qui ne fait que commencer, mais c'est Noël.
Papa. Voilà Thierry Moral, donc juste un petit extrait pour nous donner encore ce goût de biche ou de bûche, comme tu veux. Et on va conclure cette émission avec toi. Donc Thierry, peut-être pour nous redonner quelques points de chute, puisque là on a parlé de beaucoup de choses, mais comment on retrouve tout ça ?
Alors, l'intégralité de mes actualités, qu'elles soient littéraires, plastiques ou spectacles vivants, se retrouvent sur le site thierrymoral.fr, hein, qui regroupe l'intégralité de mes univers, donc la scène, les livres, les ateliers, les expositions et les collages que je publie un par mois dans la rubrique blog. Et à partir de ce site, bah, ça rayonne sur l'ensemble de mes partenaires, que ce soit les maisons d'édition, que ce soit les compagnies théâtrales ou autres de spectacles vivants avec qui je travaille, notamment le collectif Finilo Tempore pour la scène. Voilà, ça renvoie vers tous ces endroits. Et l'endroit où je m'exprime régulièrement, c'est ma chaîne YouTube, sur laquelle je publie des vidéos, soit en lien avec mes livres, soit en lien avec des spectacles, soit parce que j'ai simplement envie de publier des choses.
Mais écoute, l'envie, c'est la vie. Merci Thierry.
Merci.